VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 17h30 à Abidjan et à Bamako, 18h30 à Bria. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, en Centrafrique, un casque bleu mauritanien a été tué à Bria, dans le centre du pays. Human Rights Watch accuse les autorités de la RDC d'avoir recruté d'ex-miliciens du M23 pour réprimer les manifestations de décembre 2016.
Ces combattants M23 ont été recrutés et puis déployés au Congo et précisément à Kinshasa, la capitale, et à Lubumbashi et à Goma.
Le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, appelle la population à l'unité pour relancer l'économie. Au Yémen, les rebelles Houthis ont annoncé avoir tué l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. En Centrafrique, lors d'une attaque des miliciens anti-Balaka, un policier mauritanien de la MINUSCA a trouvé la mort. Trois autres casques bleus ont été blessés. Le point avec Raïssa Girondin.
L'information a été donnée par la mission onusienne en Centrafrique. Un policier mauritanien de la MINUSCA a été tué lundi à Bria, dans le centre du pays. Trois autres casques bleus sont blessés. Selon la MINUSCA, ces agents ont été attaqués durant la garde de l'entrée du camp de déplacés à Bria par de nombreux miliciens anti-Balaka, armés de fusils d'assaut AK-47. La mort de ce soldat de maintien de la paix porte à 14 le nombre de casques bleus tués dans des attaques depuis le début de l'année, dont 6 Marocains tués à Bangassou, dans le sud-est du pays. Depuis le renversement en 2013 du président François Bozizé par l'ex-Séléka à dominante musulmane et la contre-offensive des milices anti-Balaka pro-chrétiennes, la République centrafricaine peine à sortir de la crise politico-militaire qui fait des milliers de morts.
Au Mali, l'ancien ministre et général Moussa Cinco Koulibaly est candidat pour les élections présidentielles de 2018. Le général a démissionné de la direction de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey pour se lancer en politique. Après le maire de Sikasso, Khalifa Sanogo, c'est la seconde candidature officielle au Mali. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. En Guinée, des milliers de collégiens et lycéens sont redescendus aujourd'hui dans les rues de Conakry pour réclamer le retour en classe des enseignants en grève depuis plusieurs semaines. Les syndicats, eux, menacent de déclencher une grève générale sur l'ensemble du territoire. Lancement à Abidjan des travaux de réhabilitation du chemin de fer de 1260 km qui relie la capitale ivoirienne à Ouagadougou. Lors de la cérémonie, Amadou Koné, le ministre ivoirien des Transports, a déclaré que les coûts de ces travaux, estimés à 260 milliards de francs CFA, seront assurés par le groupe Bolloré. Les travaux devraient durer 8 ans. Et puis toujours à Abidjan, ICASA, la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Cette conférence s'est ouverte en présence de 10 000 délégués. Si le nombre de personnes traitées est passé de 100 000 à 14 millions entre 2000 et 2016 en Afrique et que la mortalité y a baissé de 50%, ce n'est pas le moment de baisser la garde, a rappelé Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU SIDA. Selon lui, les efforts de prévention doivent être intensifiés. Les adolescentes de 15 à 19 ans représentent 74% des nouvelles infections dans certaines parties d'Afrique de l'Est et de plus de 90% en Afrique australe. Dans l'est de la République démocratique du Congo, deux journalistes accusés de coopérer avec une milice sont détenus depuis 6 mois sans jugement, selon l'organisation Journalistes en danger. Cette association exprime de ses vives inquiétudes sur le sort des deux journalistes arrêtés et détenus sans jugement depuis 6 mois à Uvira, une ville située à 130 km de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Au Zimbabwe, le gouvernement du nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a prêté serment. Le président a lancé un appel à l'unité. Les détails avec Anastasie Tudiech.
« Je pense que mon équipe va relever le défi », a dit Emmerson Mnangagwa, ajoutant que son gouvernement a pour mission de finir le mandat du président précédent pour une période de 6 à 7 mois. Le principal défi sera de relancer l'économie en ruine. Le pays manque cruellement de liquidités et dans un souci de ramener de l'argent frais, le président Mnangagwa a lancé la semaine dernière un ultimatum de 3 mois aux entreprises et aux particuliers pour rapatrier tous les capitaux illégalement sortis du Zimbabwe. Monsieur Mnangagwa est toutefois critiqué pour avoir nommé de hauts gradés et des membres de la vieille garde de la ZANU-PF des mesures qui pourraient refroidir l'ardeur des investisseurs à revenir au pays. Des élections présidentielles et législatives sont prévues d'ici août 2018. Le parti au pouvoir a déjà désigné Monsieur Mnangagwa comme son candidat à la magistrature suprême.
Le Soudan du Sud a dépensé des millions de dollars dans l'achat de drones de surveillance et de caméras de sécurité israéliens pour lutter contre la criminalité. Le pays est plongé dans une guerre civile depuis 4 ans, mais 4,8 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire. Le président français Emmanuel Macron effectue un mercredi une visite en Algérie où il va réaffirmer la relation particulière entre Paris et Alger tout en essayant de dépasser les contentieux de la colonisation comme il l'a fait la semaine dernière en Afrique. Et puis la visite dans l'ancienne colonie française sera marquée par une rencontre avec le président Abdelaziz Bouteflika dans sa résidence médicalisée de Zeralda.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, le Congrès a jusqu'à vendredi soir pour voter le budget fédéral et éviter une fermeture des administrations, un shutdown que la majorité républicaine n'envisage pas. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Il n'y aura pas de fermeture de l'État fédéral. C'est impossible, a déclaré Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat. Les fonctionnaires fédéraux jugés non essentiels devront rester chez eux dans une sorte de chômage technique si le Congrès n'adopte pas une nouvelle loi budgétaire avant vendredi soir. Pour éviter cette crise, le Congrès veut adopter cette semaine une loi pour financer l'État fédéral jusqu'au 22 décembre, donnant aux élus 2 semaines de plus pour négocier sur le reste de l'année budgétaire 2018. Les démocrates disposent toutefois d'une minorité de blocage au Sénat et comptent l'utiliser pour arracher la régularisation de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes ou enfants aux États-Unis. Les Dreamers avaient bénéficié de papiers temporaires sous Barack Obama. Donald Trump a supprimé ce programme. Les démocrates affirment qu'en cas de fermeture du gouvernement fédéral, les républicains seraient pointés du doigt.
L'Organisation de la coopération islamique a recommandé aujourd'hui la tenue d'un sommet des chefs d'État des 57 pays membres au cas où le président américain Donald Trump reconnaîtrait Jérusalem comme capitale d'Israël. L'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh a été tué au sud de la capitale Sana'a, où ses partisans affrontent depuis 5 jours les miliciens chiites houthis, leurs anciens alliés. L'information a été confirmée par son parti, le Congrès général du peuple. Jacques Aristide.
Des miliciens houthis ont bloqué un convoi de 4 véhicules à environ 40 km au sud de Sana'a et ont tué par balle Ali Abdallah Saleh, de même que le secrétaire général du parti CPG, Arif Al-Zouka, et son adjoint Yassir Al-Awadi. Des images impossibles à authentifier et circulant sur les réseaux sociaux montrent un corps ressemblant à celui de Saleh. On y voit des miliciens enveloppant le cadavre en criant « Dieu soit loué ». Une dirigeante du CPG, Faika Al-Sayed, affirme que l'ex-président qui était âgé de 75 ans, est tombé en martyr en défendant la République. Elle a également confirmé que d'autres hauts responsables du parti ont été la cible de tirs nourris de rebelles houthis alors qu'ils quittaient la capitale yéménite, contrôlée par les houthis vers des zones tenues par des forces pro-salées. L'ONU a demandé un cessez-le-feu entre 10h du matin et 4h de l'après-midi à Sana'a pour permettre à la population civile de quitter les zones de combat et assurer l'envoi d'une aide humanitaire. Jamie Malgoldrick, coordinateur de l'ONU au Yémen, a déclaré que les rues de Sana'a étaient devenues des champs de bataille inaccessibles aux travailleurs humanitaires. À New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les belligérants à mettre fin au combat. Ce lundi, des avions saoudiens ont bombardé pour la 2e journée consécutive des positions des Houthis à Sana'a pour venir en aide aux hommes de Saleh.
L'Union européenne et le Royaume-Uni ne sont pas parvenus à finaliser un accord pour boucler la première phase des négociations sur le Brexit. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel va rencontrer des proches des victimes de l'attentat au camion Bélier qui s'est produit il y a un an à Berlin. Des familles de victimes ont adressé une lettre ouverte à la chancelière l'accusant d'inaction politique. Et puis à Paris, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont Theresa May et Mariano Rajoy, mais aussi des personnalités comme l'acteur américain Leonardo DiCaprio ou le milliardaire Bill Gates, sont attendus au sommet climat qui se tiendra le 12 décembre, donc en France. Ce sommet, baptisé One Planet Summit, avait été annoncé en juillet par le président Emmanuel Macron pour remobiliser sur ce dossier après la décision en juin des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris. C'est tout. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée par Eric Manirakiza.
La Tunisie arrive en tête des pays africains disposant de qualité de l'environnement pour les entreprises. D'après l'indice global de l'entrepreneuriat, le Botswana occupe la deuxième position au niveau du classement mondial. Les deux pays sont classés respectivement 40e et 52e. Dans le top 10 en Afrique, il y a aussi l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, le Rwanda, le Ghana et le Nigeria qui ferment ce classement. Le géant suisse de l'alimentation Nestlé va fermer à la fin janvier 2018 son usine et son siège social à Kinshasa en RDC. Nestlé avait ouvert en 2009 une usine de fabrication des produits Maggi pour un investissement estimé à 15 millions de francs suisses. Ce marché potentiel d'environ 80 millions d'habitants est miné par la pauvreté et l'instabilité politique. Nestlé a toujours enregistré des pertes. Enfin, aux États-Unis, la crise des antidouleurs a coûté 504 milliards à l'économie, soit près de 3% du produit intérieur brut. D'après le Conseil économique de la Maison-Blanche, plus de 50 000 Américains sont morts d'une overdose de médicaments antidouleurs en 2015. Et quelques 2,4 millions d'Américains sur environ 320 millions sont désormais dépendants aux opiacés. Les experts disent que ce phénomène est devenu un fléau pour l'économie américaine et rend improductive des millions de personnes.
Tout de suite, la page sport présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors, veillée d'armes en Ligue des Champions.
Oui, dans le groupe A, le FC Bâle doit absolument l'emporter sur la pelouse du Benfica déjà éliminé. De son côté, Manchester United accueille à Old Trafford le CSKA Moscou qui n'a pas le droit au faux pas. Dans le groupe B, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sont déjà qualifiés pour le tour suivant, mais le match à l'Allianz Arena permettra aux Bavarois de montrer qu'ils peuvent toujours briller sur la scène européenne face à Neymar, Mbappé ou encore Cavani. Dans l'autre match du groupe, le Celtic Glasgow accueille Anderlecht qui n'a marqué aucun point sur cette phase de poule. Dans le groupe C, Chelsea, le leader, accueille l'Atlético Madrid qui doit l'emporter et espérer que l'AS Rome ne batte pas le petit poussé Karabakh. C'est donc une mission impossible.
Dans le groupe D ?
Dans le groupe D, la Juventus Turin doit s'imposer en Grèce chez l'Olympiakos. Le FC Barcelone, déjà qualifié, fera face au Sporting Portugal.
On reparle du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 en Russie.
Une réaction ce soir, celle de Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, qui revient sur ce tirage complexe pour le Nigeria, qui fera face au vice-champion argentin, à la Croatie et à l'Islande lors de cette Coupe du Monde l'été prochain. On écoute Gernot Rohr.
C'est un tirage difficile pour le Nigeria, parce que l'Argentine est numéro 4 mondial, vice-champion du monde. En plus, la Croatie a l'habitude également de faire des bons tournois, que ce soit des championnats d'Europe ou des championnats du monde avec de très grands joueurs. Et l'Islande, on le sait, a une équipe très solide, supportée par des fans extraordinaires et par des gens qui sont acquis à leur cause. Donc ça ne va pas être simple. Le Nigeria, qui est quatrième chapeau, ne sera pas favori. Mais on est des outsiders ambitieux et on a envie, malgré tout, de sortir de ce groupe.
Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, invité de l'émission Sporama sur VOA Afrique.
Et bien sûr, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, le champion NBA en titre Golden State a attendu le troisième quart-temps pour submerger Miami 123-95, tandis que Houston, porté par James Harden, n'a laissé aucune chance aux Lakers devant leur public. Une victoire 118-95. La troisième grosse écurie de la conférence Ouest, San Antonio, s'est inclinée à Oklahoma 90-87.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Des officiers supérieurs des forces de sécurité en République démocratique du Congo ont mobilisé plus de 200 anciens combattants rebelles du M23 venant des pays voisins pour étouffer les manifestations contre le président Joseph Kabila en décembre 2016. C'est ce qui ressort du rapport publié ce lundi par Human Rights Watch qui assure que des combattants du M23 recrutés en Ouganda et au Rwanda ont tué au moins 62 personnes entre le 19 et le 22 décembre 2016. Pour en savoir plus, Solange Nyamulisa a joint Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch.
Donc c'est une recherche que Human Rights Watch a menée depuis 11 mois et nous avons documenté comment les officiers supérieurs des forces de sécurité congolaises ont recruté des anciens combattants rebelles de M23 dans les pays voisins, dont Ouganda et au Rwanda, où ils étaient basés depuis la défaite de leur rébellion en fin 2013. Et ces combattants M23 ont été recrutés et puis déployés au Congo et précisément à Kinshasa, la capitale, et à Lubumbashi et à Goma. Et ils ont reçu des ordres explicites de réprimer et étouffer les manifestations pacifiques et toute autre menace au pouvoir du président Joseph Kabila autour du 19 décembre 2016, qui était la fin du deuxième et dernier mandat de Kabila autorisé par la Constitution.
Et pourquoi révéler ces informations un an après, alors que vous étiez au courant depuis décembre 2016?
C'est une recherche qui n'était pas facile d'avoir toutes les confirmations, d'avoir des témoignages des combattants de M23 eux-mêmes et aussi la confirmation des officiers des forces de sécurité congolaises qui ont été aussi impliqués ou qui avaient des combattants de M23 intégrés dans leurs unités. Donc c'est un travail qui nous a pris du temps, mais on pense que c'est très pertinent aujourd'hui parce que nous approchons vers la fin de l'année 2017, donc une année après la fin du mandat de Kabila selon la Constitution. Les élections sont encore très loin et il n'y a pas de clarté sur si et quand Kabila va quitter le pouvoir. Il y a des manifestations prévues dans les semaines à venir et nous espérons que les autorités et les forces de sécurité ne vont pas répéter les mêmes pratiques et le même type de répression contre les manifestants. Et aussi qui ne répètent pas les mêmes pratiques de recruter des membres d'un groupe rebelle abusif pour participer dans cette répression. Donc nous espérons que la publication de ce rapport peut aider à éviter qu'il y ait encore des violences et des répressions dans les semaines à venir.
Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique à Human Rights Watch.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Mali, l'ancien ministre et général Moussa Cinko Koulibaly a fait acte de candidature pour les élections présidentielles prévues en 2018. Ce haut gradé de l'armée malienne a démissionné de l'institution militaire pour se lancer dans la course pour Koulouba 2018. Notre correspondant Kassim Traoré l'a rencontré pour qu'il donne les raisons de sa démission.
Ma démission est motivée par mon souci de pouvoir contribuer à trouver des solutions aux différents défis auxquels le pays fait face. Actuellement, je m'occupe essentiellement des questions de sécurité, de gouvernance et de paix. Mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai eue, en particulier au ministère de l'administration territoriale, je pourrais aussi contribuer aux questions électorales, questions d'association de partis politiques, etc. Donc, j'aimerais me donner les moyens de pouvoir faire ces activités en n'étant pas limité par les réserves imposées par la qualité de militaire.
Vous vous balancez sur la scène politique. Est-ce que vous avez une préférence entre l'opposition et la majorité?
Je vais forcément essayer de mettre à disposition ma petite expérience que j'ai eue au ministère de l'administration territoriale, mais je ne vais pas me limiter uniquement à ça. Je suis disponible pour toute activité, toute contribution dans tous les domaines, pourvu que ça puisse apporter une contribution positive à la résolution de la crise que nous vivons actuellement.
Est-ce que vous êtes seul dans cette mouvance ou est-ce que vous êtes avec vos anciens camarades dont certains sont en détention actuellement?
Je suis avec tous les Maliens aujourd'hui qui pensent que nous devons donner un nouvel élan à la démocratie malienne, que nous devons changer la gouvernance ici au Mali. Donc on se dit forcément il y a des échéances, il y a des rendez-vous qui pointent à l'horizon. C'est une belle opportunité pour essayer de changer le cours de l'histoire de notre pays. Donc bien évidemment, on va saisir ces opportunités pour essayer d'influencer et d'influer sur l'avenir de notre pays.
Moussa Sinko sera-t-il candidat en 2018?
Le plus important pour le moment, c'est de nous assurer que au mois de septembre de l'année prochaine, que nous aurons une autre façon de gouverner notre pays. C'est-à-dire que nous allons mobiliser tous les Maliens qui croient que nous pouvons faire mieux que ce qui s'est fait actuellement. Et nous allons nous donner, par le jeu démocratique, les élections, la chance d'amener une autre équipe plus performante pour gérer les affaires de l'État.
Ça veut dire que vous ne faites plus confiance au président Ibeka?
Le constat, ce n'est pas seulement moi qui le fais. Le bilan est désastreux et nous ne pouvons plus nous permettre de vivre 5 années encore avec cette gouvernance. Donc je pense qu'il serait sage, même pour l'équipe qui est aujourd'hui en place, de tirer les mêmes conséquences et de dire peut-être qu'il est temps de passer le relais à d'autres personnes.
Quel message pour la jeunesse?
Un message de mobilisation. Je demande à la jeunesse de croire en elle-même et de croire en l'avenir de ce pays. La jeunesse représente la force vive de la nation et nous avons la chance, nous avons une jeunesse dynamique et le travail paye. Si on se mobilise et qu'on met le Mali au cœur de nos préoccupations, je suis sûr que nous allons changer positivement la vie des Maliens. Je fais appel à tous ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut changer les choses et nous allons nous donner la main pour essayer de changer les choses.
L'ancien ministre et général Moussa Sinko Koulibaly.
Ekabadou, avec vous dans votre émission À votre avis, ce lundi à 18h en temps universel sur VOA Afrique. Facebook lance aux États-Unis une version destinée aux enfants de sa messagerie instantanée. Messenger Kid est le nom de l'application de discussions vidéo et de messages conçus pour que les enfants puissent contacter famille et amis. Les parents peuvent contrôler entièrement la liste de contacts, c'est ce qu'a annoncé le réseau social américain. Que pensez-vous de cette application? Êtes-vous pour le contrôle des réseaux sociaux des enfants? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
Au Zimbabwe, le nouveau gouvernement a prêté serment aujourd'hui. Le principal défi de la nouvelle équipe consiste à relancer l'économie en ruine. La nomination des militaires et des membres de la vieille garde de Robert Mugabe refroidit les ardeurs de l'opinion publique et des investisseurs. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Harare le directeur du Novasc, John Stewart.
On a été très déçus du fait que le président Mnangagwa n'est pas allé plus loin que son parti, le ZANU, pour inviter des gens à participer dans un gouvernement pour cette période de 8 ou 9 mois avant les élections éventuelles de 2018. Parce que dans sa déclaration, lors de son installation comme président, le 24 novembre, il a parlé d'une volonté d'inclure la majorité dans la restructuration nécessaire du pays. Il disait que le ZANU seul ne peut pas faire face aux défis nationaux. Mais en fait, il semble qu'en fait, le groupe qu'il a regroupé pour cet gouvernement vient seulement d'un règlement des comptes au sein de la ZANU.
Est-ce que c'est arrivé des militaires dans le gouvernement qui posent problème?
Il a inclus dans le gouvernement 2 militaires qui sont très impliqués dans des problèmes ultérieurs du pays. Par exemple, le ministre qui est chargé des terres et de l'agriculture, Terence Shiri, était le commandant des militaires lors des opérations de l'armée zimbabwéenne dans la région de Matabeleland dans les années 80. Il était commandant de cette opération. Il a une histoire assez néfaste dans ce sens-là. Mais et l'autre ministre des Affaires étrangères, le général Sibusiso Moyo, était dans les années 80 le secrétaire d'une compagnie militaire zimbabwéenne qui étaient impliqués dans les opérations diamantifères au Congo, soutien de Mobutu dans les années 97-18. Et un rapport des Nations Unies qui est sorti en 2002 avait nommé non seulement le général Moyo, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères, mais aussi, en fait, M. Mnangagwa lui-même, comme responsable, en fait, des commerces illégaux et corrompus au Congo pendant cette époque-là. Et donc, la confiance qui est clé pour le rétablissement de l'économie nationale avec des relations internationales ne semble pas être très évident. La population qui a eu la possibilité de manifester sur la rue le 18 novembre a, dans un certain sens, perdu la peur qui était généralisée avant cela. Et donc, il y a peut-être la possibilité qu'on aura des relations différentes entre le pouvoir et le peuple.
Tshivangirai avait appelé Mugabe à démissionner. Qu'est-ce qu'il en dit aujourd'hui?
Démissionner, c'est déjà important que Mugabe a démissionné. Mais en fait, quand les militaires ont pris le pouvoir, même d'une façon pas très claire, quand ils parlaient d'une transition assistée par les militaires, on pensait que ça pourrait être une transition nationale assistée par les militaires. Mais il semble que ce qu'on a eu, c'est une transition au sein du ZANU assistée par les militaires. Et Tsvangirai est maintenant assez déçu du fait que M. Mnangagwa n'a pas réellement travailler pour un gouvernement conjoint ou uni pour faire face aux défis. Mais dans un sens, on a la continuation avec d'autres personnes du règne de M. Mugabe pour son terme qui va se terminer juillet ou août l'année prochaine. Les partis de l'opposition ont beaucoup à faire parce qu'ils sont très divisés.
John Stewart, directeur de Novasc, Action et stratégie non violente pour le changement social. Au Bénin, 65% des électeurs ont porté leurs espoirs sur Patrice Talon lors de la présidentielle il y a plus de 18 mois. Plus de la moitié d'entre eux regretteraient déjà leur choix, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La justice doit pouvoir être dite par le peuple. Le peuple doit se mettre debout. À partir de la semaine prochaine, une grève générale sera déclenchée par la CSTB.
C'est une menace brandie par les syndicalistes depuis quelques mois. Le refrain est quotidien. La terre d'abondance que les Béninois espéraient tarde à venir et dans les secteurs d'activité s'agrogne. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin peint d'ailleurs un tableau des plus chaotiques.
La situation nationale est marquée par une crise multidimensionnelle qui affecte la vie politique, économique et sociale et a instauré un mal-vivre profond et général.
Au sein des organisations de la société civile, la déception est à la taille des attentes suscitées par l'élection de Patrice Talon. La mouvance grandit de jour en jour alors que l'opposition se limite à quelques-uns tenant encore le pari de la résistance. Pour Noël Chadaré de la COSI Bénin, le gouvernement actuel est une copie conforme de celui tant combattu et qui était dirigé par Yahya Boni.
On constate qu'il n'y a pas véritablement une rupture. Avec là, c'est ce qui se faisait par le passé qui est en train de continuer de se faire. Donc nous voulons vraiment que cela cesse un peu dans notre pays parce qu'on ne peut pas changer de gouvernement, d'homme aussi à tête et constater que les mêmes choses qui se produisaient continuent de se produire parce qu'il est venu sous le sceau de la rupture.
Dans le souci d'assainir les finances de l'État et la gestion de la chose publique, plusieurs acteurs sont audités régulièrement par la brigade économique et financière et aux besoins conduits devant le procureur pour expliquer cet décaissement inhabituel. C'est dans ce cadre qu'un syndicaliste connu pour sa virulence contre le pouvoir en place et plusieurs de ses collègues font l'objet d'un mandat de dépôt. Il n'en fallait pas plus pour que la situation sociale monte d'un cran. Pour les avocats de ces prévenus, le pouvoir est dans l'abus.
La preuve n'a pas été rapportée que les montants ont été remis à nos clients. Et donc, normalement, en l'absence de preuves, on ne devrait pas aller plus loin, encore moins les mettre sous mandat de dépôt.
Voilà un dossier où il y a eu des perquisitions au domicile
domicile des différentes personnes mises sous mandat de dépôt aujourd'hui, les perquisitions ont été toutes infructueuses. À défaut de trouver de l'argent, on est allé saisir de petites bouteilles de champagne. Et c'est sur la base de bouteilles de champagne qu'on a placé sous mandat de dépôt M. Laurent Métognon.
Du piratage des fréquences de certaines radios, désormais très critiques vis-à-vis du pouvoir, la privatisation ou mise en affermage de certaines sociétés d'État, les Béninois espèrent que le président pourrait sortir le pays de la morosité et qu'ils n'auront pas à serrer indéfiniment la ceinture. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Restez avec nous tout de suite. À votre avis, mais bien entendu avant, un nouveau point sur l'actualité. Merci Michel Joseph à la mise en onde, Nick Ivanov à la console, Claire Morin-Gibou était au micro. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com bien sûr. Très bonne soirée.